Romain qui arrive sur les ondes de Fadjet. Il est à côté et trépigne. Il a envie de rentrer en studio. Je lui laisse la place. Il est presque 19h. Très très bonne soirée à l'écoute de Fadjet, bien sûr. Ciao, la semaine prochaine.
Merci Aurélie, bonsoir à toutes et à tous. Il est tout pile 19h, vous êtes bien à l'écoute de Fadjet, c'est Romain Micro et on est parti pour 30 minutes de votre émission archiphonique. Archiphonique, c'est la seule émission culturelle consacrée à toutes les questions portant sur l'architecture, l'urbanisme et le paysage. On salue Camille qui est partie rendre visite à nos amis italiens, mais qui reviendra dès la semaine prochaine pour nous faire découvrir de nouvelles contrées italiennes, peut-être, qui sait. Une première musique donc juste après mon intro et nous retrouverons juste après notre invité. Nous recevrons aujourd'hui dans nos studios l'architecte diplômée d'État et doctorante en architecture de l'ENSA de Versailles, Lucile Pierron. Par ailleurs enseignante vacataire à l'école d'architecture de Nancy, Lucile Pierron, que nous avons conviée à venir nous parler de la reconversion des églises dans un contexte où bon nombre de ces monuments se dégradent rapidement, faute de moyens pour les rénover. Quel potentiel ? On parlera sans doute de quelques exemples en dehors de nos frontières et on se rapprochera des églises en Lorraine plus particulièrement. Archiphonique, n'oubliez pas que les podcasts des émissions précédentes sont disponibles sur le site internet de la radio, fadjet.net, rubrique toutes les émissions archiphoniques. Et puis vous pourrez retrouver le podcast de cette émission juste à la fin de l'émission sur le site internet, rubrique tous les podcasts archiphoniques. C'est votre émission consacrée à vos espaces de vie et c'est tout de suite sur Fadjet. Angus et Julia Stone, c'est For You, et c'est tout de suite sur Fadjet. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
Close.
Angus et Julia Stone sur Fadjet. Vous êtes à l'écoute de votre émission Archiphonique et on revient tout de suite avec notre invité du jour. Bonsoir Lucille Piron.
Bonsoir.
Alors, tout d'abord, commencez par vous présenter à nos auditeurs.
Oui, rapidement, j'ai fait des études d'architecture, mais je me suis tournée très rapidement vers la recherche après mon diplôme. Et donc maintenant, je suis chercheur associé au LAC, qui est le laboratoire d'histoire de l'architecture contemporaine à l'école d'archi de Nancy. Et puis parallèlement, je suis enseignante vacataire et je prépare une thèse de doctorat en architecture.
Alors, on a déjà reçu deux chercheuses du LAC dans cette émission. Vous êtes abonnée.
Voilà, j'ai l'impression.
On a reçu Caroline Bauer pour la toute première émission de cette saison et puis Karine Thiel. Alors pourquoi, on pose la même question à tous les chercheurs qui viennent dans cette émission, pourquoi aujourd'hui faire de la recherche en architecture? Qu'est-ce que c'est la recherche en architecture?
La recherche en architecture, c'est constituer une matière de connaissance en vue d'intervenir sur ces édifices, hein, particulièrement. Enfin, donc moi, par rapport à la thèse là que je mène et qui concerne essentiellement des églises catholiques construites entre 45 et 75, hein, durant la période des Trente Glorieuses. Moi, je vois cette recherche, constituer de la connaissance, des savoirs, mais en vue de sauvegarder ce patrimoine d'une part, et puis éventuellement donner des pistes en fait aux architectes praticiens pour intervenir sur ces édifices.
Et alors, les champs d'action du LAC, ça se résume à travers des revues, des publications, des expositions.
Oui, tout à fait. Il y a les cahiers du LAC hein, qui permettent de valoriser les travaux en cours des chercheurs ou des chercheurs associés au laboratoire. Et puis c'est également des opérations de sensibilisation, de valorisation, comme des expositions par exemple, des conférences, etc. Quoi.
Alors, transition parfaite, une exposition qui a lieu en ce moment au domaine de l'année à Villers-les-Nancy. L'exposition qui s'appelle « Église en quête de modernité 1954-1975 en Meurthe-et-Moselle ». Qu'est-ce qu'elle nous présente, cette exposition?
Alors cette exposition, elle a déjà été présentée, hein, il faut le dire, déjà en 2012 à la Villa Majorelle, et puis l'année suivante à la Cité de l'Archi et du Patrimoine à Paris. Et c'est une exposition en fait qui se compose essentiellement de panneaux monographiques sur donc 12 églises construites durant cette période des Trente Glorieuses. Et puis qui présente également le contexte en fait de reconstruction d'après la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi une exposition qui présente des maquettes qu'on avait pu retrouver dans les caves des églises au moment de la recherche. Et on a également des photographies de chantier, etc.
Alors cette exposition, on peut la voir jusqu'au 30 mai. Oui. Elle est ouverte à tous.
Oui, tout à fait.
Et évidemment, on ne peut que vous inviter à aller la voir. Alors, le lieu de culte aujourd'hui, c'est quand même un peu un sujet d'actualité, faut le dire.
Ça le devient.
Ouais.
Ça le devient.
Triste sort, malheureusement.
Triste sort, puisque c'est vrai qu'on a un certain nombre de faits patrimoniaux, en fait. Hein. On parle aujourd'hui du patrimoine religieux, surtout à partir de ces cas d'église, soit en vente, soit en proie à des projets de destruction, de reconversion, qui font parfois couler beaucoup d'encre. Donc c'est vrai que malheureusement ou heureusement, on commence à s'intéresser à ce patrimoine, et surtout ce patrimoine moderne, à partir des menaces en fait qui pèsent sur ces édifices.
Ouais, alors parce que malheureusement, comme vous le dites, c'est un patrimoine en danger.
Oui, c'est vraiment un patrimoine en danger. On s'en rend de plus en plus compte, mais c'est vrai que sur les 100 000 constructions en fait religieuses qu'on compte aujourd'hui en France, plusieurs milliers sont menacés, soit de vente, soit de transformation, parfois hasardeuse, et puis ou de projets de reconversion là aussi qui viennent remettre en question les qualités du bâtiment d'origine.
Alors de nombreuses églises en France souffrent d'un sérieux manque d'entretien, il faut le dire aussi, et posent souvent des problèmes aux municipalités qui peinent à trouver les fonds pour entreprendre des réparations en conséquence. Alors, est-ce que faute de pouvoir les entretenir, c'est une solution de sauver le patrimoine, de les vendre?
Ça peut effectivement être une solution si un projet de reconversion, un projet de mutation est pensé par la suite. Parce que la vente en soi n'est pas une solution. C'est la vente associée à un projet qui peut être une solution.
Parce que selon des experts qui avaient noté ça dans le journal, 5 à 10% des édifices pourraient être vendus ou détruits ou abandonnés d'ici 2030.
Oui, tout à fait. On peut donner l'exemple assez récent, là aussi, qui a été pas mal publié, celui de l'église de Crune, qui se situe dans le Pays Haut et qui est aujourd'hui en vente sur un site d'une agence immobilière à 250 000 euros, si mes souvenirs sont bons. une église qui est vraiment un témoin de l'histoire de l'architecture moderne, puisqu'elle est unique en son genre. C'est une des premières églises construites à partir d'une structure métallique. Et voilà, c'est vrai que ce cas-là pose véritablement question. Donc il y a ces cas d'églises en vente, il y en a d'autres qui sont aujourd'hui détruites. Par exemple, celle de Mont-Saint-Martin, qui se situe en Meurthe-et-Moselle, sur laquelle on avait travaillé pour l'exposition, a été détruite début 2013, alors qu'elle présentait de nombreuses qualités architecturales.
Pourquoi on les détruit ? Juste parce qu'elles sont pas entretenues ?
Elles sont pas entretenues, faute de moyens suffisants. C'est une charge en fait qui devient trop importante en fait pour les paroisses qui sont propriétaires de ces édifices.
Alors, les Français sont très attachés à leur patrimoine architectural.
Oui.
Est-ce que c'est propre à la culture française ou est-ce qu'on retrouve aussi cet attachement dans d'autres pays ?
Je pense qu'il y a effectivement une certaine spécificité en France par rapport au patrimoine. Après, la nuance qu'on peut peut-être donner, c'est que c'est un attachement, moi, qui me semble essentiellement tourné vers l'architecture ancienne, classique. L'attachement au patrimoine moderne, il est aujourd'hui beaucoup plus discutable. Parce qu'on se rend compte, même au moment de la conception de l'exposition, qu'on se frottait vraiment à un regard qui est très négatif, en fait, sur ces édifices. On ne considère pas les églises modernes aujourd'hui comme du patrimoine.
Comme de vraies églises, ou est-ce qu'on peut oser dire, est-ce qu'on,
oui. Hein? Oui, tout à fait, ouais. Parce que c'est vrai qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a aussi tendance à renouveler le vocabulaire des églises. On a des églises qui ressemblent quasiment à des hangars industriels, des églises qui ressemblent même à des blocos, hein, c'est ce qu'on nous avait dit sur Vendeuvre, par exemple. Donc c'est vrai que le fait de se distancier, en fait, d'un vocabulaire classique de l'architecture religieuse, amène à une certaine difficulté en fait d'appréhension et de valorisation de ce patrimoine.
Alors l'église de Vendeuvre de Saint-François d'Assise, on va justement en parler. Oui. C'est un cas d'école pour le cas de Nancy.
Oui, c'est effectivement un cas d'école qui a été d'ailleurs publié même dans des ouvrages nationaux sur le patrimoine. Donc oui, pour dire que c'est un cas d'école, c'est effectivement le cas. Le cas de Vendeuvre, bon, a été largement publié dans les républicains, etc. Mais globalement au niveau de la chronologie, 2007 en fait, le diocèse a trouvé les fonds pour restaurer ce bâtiment. Il décide de vendre l'édifice et puis il faut attendre en fait 4 années pour qu'il y ait des propositions. Une première proposition de transformation en centre commercial et une seconde en KFC. Et c'est cette seconde proposition
c'est curieux,
qui a été beaucoup critiquée. Alors, pas pour le programme en soi, mais surtout pour le projet qui avait été proposé à l'époque.
Alors, on parlera des projets, les différents projets proposés pour ces reconversions et puis les exemples dans d'autres pays, d'autres reconversions, mais de tout autre programme, on peut le dire. Oui. On va se quitter juste 3 petites minutes avec une petite pause musicale. C'est Ridane, Le Soleil Bleu, et puis on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Traverser le ciel une nuit d'été.
faire par quatre chemins. Je suivrai les étoiles et les dauphins. Mais où se trouve ce monde, tout va bien. L'amour, la paix, le soleil bleu, les seuls plaisirs qui mettent dans mes yeux.
Le soleil bleu, pas vieux. Vous êtes à l'écoute d'Archiphonique sur Fadjet, il est 19h18 et nous sommes de retour dans notre émission pour parler de reconversion des églises avec une chercheuse du LAC, Lucille Pierron. Et on parlait juste avant la pause de l'église de Saint-François d'Assise de Vendeuvre, de l'architecte Henri Prouvé qui aurait pu être reconverti en KFC, qui ne le sera pas, on a envie de dire heureusement. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça en France qu'on peut citer de reconversion?
Oui, on peut citer très proche de nous, hein, à l'Axou, l'église Saint-Paul, qui est une réalisation des années 60, hein, qui se situe au cœur du quartier des Provinces, et qui a été reconvertie en 2000 en centre culturel, qui est une réalisation d'un architecte qui est basé à Pont-à-Mousson, qui s'appelle Jean-Luc Robineau, et c'est un projet qui est tout à fait intéressant.
Dans la reconversion, alors dans le peu de reconversion d'églises qu'on trouve en France aujourd'hui, est-ce que c'est plutôt les églises modernes qui sont principalement visées, ou on trouve quelques églises anciennes?
Non, on trouve aussi des églises anciennes, hein. On a le cas notamment de Poitiers, hein, si mes souvenirs sont bons, d'une église 18e reconvertie en cave à vin. On a d'autres exemples à Bruxelles, oui, tout à fait.
C'est pas fait exprès.
Non, je crois pas. On a un exemple à Bruxelles d'une église, là aussi, hein, extrêmement classique, reconvertie en restaurant, discothèque. Enfin, on a plusieurs cas de ce genre-là, à la fois en France et aussi à l'étranger.
Alors les programmes qui sont concernés, ça va donc de la discothèque, à la cave à vin, au centre culturel.
À l'hôtel de luxe, à la maison individuelle, il y a un exemple à Utrecht, aux Pays-Bas. D'une église avec une architecture extrêmement blanche, pure, où on a le lit familial au milieu du chœur. Enfin,
wow.
On a des photographies comme ça qui sont assez étonnantes.
Assez marrantes, ouais. Est-ce que le programme, c'est ce qui a pu bloquer le projet de reconversion de Saint-François d'Assise à Vendeuvre?
Bon, je pense que le programme, effectivement, a un petit peu étonné. Je pense que les gens étaient un petit peu frileux face à ce type de programme. Mais c'est surtout le projet, en fait, qui avait été proposé, qui venait remettre en question la spécificité de ce bâtiment. C'est un bâtiment avec une coque en béton, en fait, et le projet demandait des percements, en fait, sur cette coque. Donc, je pense que c'est des éléments de ce type-là, en fait, qui ont plutôt poussé au refus de ce type de reconversion.
Alors c'est marrant, vous parliez tout à l'heure, vous disiez qu'on le qualifiait souvent de bunker, cette église, et on fera référence à la chronique de Nick Collat de Poutot qui parlait de savant bunker, mais pour l'école d'architecture de Nancy.
Oui, tout à fait.
Alors, dans un autre pays proche de nous, l'Italie, un photographe s'amuse à faire le tour du pays pour photographier les reconversions d'églises.
Oui, c'est un photographe qui est vraiment dont le travail est extrêmement intéressant, je trouve, qui parcourt en fait avec son appareil photo toute l'Italie, hein, du nord au sud, et il va photographier en fait des églises de manière systématique, des églises de toute époque, mais des églises désacralisées et surtout reconverties. Donc on a des photographies assez étonnantes. Alors ça va là aussi, hein, de la salle de spectacle à l'hôtel de ville ou encore au garage, qui était l'exemple à mon avis le plus étonnant.
Ouais, parce qu'un garage, on pense par exemple à l'école d'architecture de Strasbourg qui a été reconvertie en école d'architecture depuis un garage. Mais alors là, c'est l'inverse. On reconvertit une église en garage.
Là, c'est l'inverse.
Alors, une question très ouverte, peut-être trop, peut-être pas assez, je ne sais pas. Reconvertir les églises, est-ce que c'est leur assurer une certaine pérennité, ou alors c'est trahir un peu leur vocation?
Non, je pense que c'est essentiellement leur assurer une pérennité. Je pense que dans l'histoire de l'architecture, même plus ancienne, on a énormément de cas de bâtiments qui ont connu plusieurs vies. Donc je pense que c'est plutôt leur assurer un avenir heureux. Voilà.
Et on l'espère, bien sûr. Alors, on rappelle l'exposition Regard croisé d'une historienne et d'une architecte qui permet d'appréhender et de comprendre ce qui fait la spécificité de ces églises encore peu connues, souvent dépréciées et aujourd'hui menacées, constituant ainsi un véritable enjeu pour l'avenir. Ça, c'est le pitch de l'exposition.
Voilà, c'est ça.
L'exposition, donc, Église en quête de modernité, 1954-1975 en Meurthe-et-Moselle, présentée dans le hall du domaine de l'année à Villers-lès-Nancy. L'exposition est ouverte à tout public.
Bien sûr.
Jusqu'au 30 mai.
Jusqu'au 30 mai, c'est ça.
Et qu'est-ce qu'on pourrait dire au public pour le motiver à y aller?
Qu'est-ce qu'on peut leur dire? je pense, soyez curieux d'une architecture, ouais, qui est pas facile à appréhender, hein, ça je le conçois,
et mais puis peut-être,
qui est assez étonnante.
Et puis on peut peut-être leur dire à ces auditeurs d'aller visiter les églises, parce qu'on ne les visite plus assez, on ne les pratique même plus, ouais, puisqu'on disait que les fidèles étaient de moins en moins présents dans les lieux de culte. Donc c'est aller voir ces lieux.
Ces bâtiments sur le terrain, parce que c'est vrai que...
Qui réservent parfois de très nombreuses surprises, y compris les églises modernes, parce qu'on a tout le temps en référence l'église de Ronchamp de Le Corbusier, mais d'autres églises modernes réservent tout autant de surprises.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Je crois que c'est bien
résumé. Oui, c'est bien, je ne peux rien rajouter, c'est parfait.
Merci beaucoup, Lucile Piron, d'avoir été avec nous pour nous parler de la reconversion des églises, et puis bonne continuation pour votre thèse.
Merci, vous aussi.
C'est la fin de votre émission Archiphonique. Le podcast de votre émission du jour sera disponible dans quelques instants sur le site officiel de la radio, fadjet.net, rubrique tous les podcasts, téléchargeables et plus simplement en écoute libre pendant une semaine. La semaine prochaine, Camille reviendra pour nous faire part de belles découvertes et peut-être d'églises italiennes, sait-on jamais. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, dans Archiphonique, nous recevrons un autre enseignant de l'école d'architecture de Nancy, également doctorant, mais en philosophie, Hervé Gaff, philosophe, viendra nous parler de la réflexion de l'architecte, cette plus-value qu'il peut apporter dans la conception de nos espaces, ces choses insoupçonnées qui sont le fruit d'un long travail théorique et pratique, un nouveau regard porté sur le concepteur et non pas sur ses conceptions, un entretien exclusif à ne pas louper. Et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Fadjet, et notamment pour la prochaine demi-heure, puisque c'est le menu étudiant qui arrive avec Pew et son équipe, qui recevra ce soir, il me l'a dit il y a 5 minutes, je ne sais plus, les Aquacités, voilà, les organisateurs des Aquacités 2015. Excuse-moi Pew pour cet oubli. Pour Archiphonique, c'est rendez-vous la semaine prochaine, même heure, mêmes ondes. Bonne soirée à tous d'ici là, et puis n'oubliez pas que l'émission peut être podcastable sur le site internet de la radio. Bonne soirée à tous, salut.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus. L'évangile, il l'avait pas lu. Mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapins. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les